et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort.
Il va louper le début, mais c'est pas pour prendre sa douche.
Et c'est sur l'autre radio.
Chaque matin, en sortant de chez moi, je fréquente ces mêmes rues, ces mêmes chemins. Les maisons ne semblent pas bouger, rien ne se transforme. Pas assez, en tout cas pour quelqu'un comme moi qui se lasse trop vite de ce qu'elle a trop regardé. Vous vous dites, elle commence cette semaine de mauvaise humeur. Non, j'en fais des tonnes. Je ne savais pas comment vous dire qu'aujourd'hui j'ai envie qu'on réinvente ensemble tout ce qui semble très immobile autour de nous, tout ce qui semble ne jamais avoir changé. Je voudrais qu'on réussisse à porter un regard différent sur ces bâtisses, ces architectures que l'on croit connaître par cœur, tout près de chez nous. Et même aujourd'hui, on va spécifiquement lever les yeux à Château-Gontier avec mon invité d'aujourd'hui, Hugo Desnos, qui est artiste peintre et qui exposera très bientôt au garage à Château-Gontier. Bonjour Hugo et merci d'être avec moi aujourd'hui.
Bonjour à tous, bonjour à toutes.
C'est précisément à partir du 2 novembre que l'on pourra découvrir ton travail, une exposition qui s'appelle Castrogon à traits tirés. On en parle ensemble dans quelques secondes. Et oui, vous l'avez compris, c'est l'agité du local qui commence et c'est notre première de la semaine aujourd'hui. Bienvenue amis auditeurs, je suis contente de vous savoir à notre écoute. J'ai d'ailleurs une bonne nouvelle pour les plus passionnés de sport parmi vous. Une série d'interviews et de rencontres avec nos athlètes locaux ayant participé aux Jeux Olympiques 2024 commence aujourd'hui. C'est une série signée Aubin Madio qui commence donc aujourd'hui en seconde partie d'émission. Et aujourd'hui, il nous emmène à la rencontre de Charles Renard. On terminera cette émission toujours avec des actus sportifs puisque c'est le journal des sports de Mathieu qu'on a le plaisir de retrouver un lundi sur deux dans l'agité du local. Mais je vous le disais, je suis en très bonne compagnie aujourd'hui puisque je suis avec Hugo Desnos, artiste qui viendra exposer au garage à Château-Gontier à partir du 2 novembre et jusqu'au 1er décembre. Le nom de l'exposition, c'est Castrogon à traits tirés. Et alors, ce qu'on a pu se dire un petit peu avant le début de cette émission, Hugo, c'est que finalement, cette exposition, on peut parler de souvenirs imaginés. Explique-moi ce que tu mets derrière tout ça.
Ouais, bah alors, souvenirs imaginés, il y a... Il y a plein de choses, mais c'est comme ça que j'aime décrire mon travail, parce qu'en fait, je vais beaucoup parler de tout un tas de sujets, mais avec le regard que j'en ai, que j'essaye d'avoir comme quelque chose de sensible, et souvenirs imaginés, parce qu'en fait, tous nos souvenirs, ils sont vrais, ils sont véridiques au moment où on les vit, et par la suite, bah, notre mémoire va nous jouer des tours, et on va retransformer tout ça. Et donc au moment de le restituer, de le donner à voir, à penser, à ressentir à d'autres, et bah, il sera différent. Il sera différent, en quelque sorte imaginé, donc c'est comme ça que je décris mon travail.
Si on regarde un petit peu ton parcours, tu as passé 6 ans à Angers à travailler, donc c'est l'équivalent des Beaux-Arts, hein, tu me disais, à Angers, où tu as été.
Ouais, alors c'est anciennement les Beaux-Arts, maintenant l'ESAD Talmanger, donc l'école supérieure d'art et design, où j'ai passé mon master, toujours dans les lettres, le DENSEP, donc le diplôme national supérieur d'expression plastique, et où j'ai appris un peu ce que c'était que l'art contemporain. J'avais plein de préavis sur tout ça au départ, et j'ai appris à l'aimer, et aujourd'hui je travaille pour.
Donc tu es de retour à Château-Gontier, tu es né à Château-Gontier.
Ouais, tout à fait, je suis né à Château-Gontier, j'ai vécu même à Dan, pour celles et ceux qui connaissent, un tout petit village en bord de Mayenne. Et donc je connais assez bien les contours des environs que je retrace aujourd'hui.
Oui, puisque finalement, si on parle de ton travail, là, on a parlé de souvenirs imaginés, mais ces souvenirs sont basés sur l'architecture locale finalement.
Alors ici, effectivement, pour l'exposition, je vais plutôt travailler autour du patrimoine sous plusieurs manières différentes. Mais en fait, l'idée, c'était de retrouver ces bâtiments que tout le monde connaît, qu'on voit en passant dans la rue, qu'on voit d'ailleurs, même pour ceux qui ne sont pas de Château-Gontier, qui arrivent, je ne sais pas, pour reprendre la route d'Angers, c'est les flèches qui sortent de la ville comme des curseurs. D'ailleurs, je pense à une installation... des lumières de David Michael Clark au sein du Théâtre des Ursulines qui fait référence à tout ça également. Donc c'était une envie que d'en parler.
On retrouvera différents, enfin, du coup, tous les gens d'ici vont pouvoir retrouver, en tout cas, avoir quelques repères sur cette expo, dans cette exposition, sur des différents lieux, en fait, d'ici, comme le théâtre des Ursulines, mais aussi l'hôpital, les églises Saint-Jean-Baptiste et Saint-Rémy. Pour toi, ce qui compte, tu me dis, si je me trompe, c'est finalement, à la fois, il y a tous ces lieux que l'on connaît bien, que l'on croise peut-être chaque jour, et toi, ton idée, c'est de jouer un petit peu avec le visiteur qui va se rendre sur place pour poser un regard différent sur tout ce qu'on croise quotidiennement.
Ouais, bien sûr. Alors, c'est jouer avec la personne qui va regarder, effectivement, et de se dire que de quelque chose que tout le monde connaît, bah, comment on le rend unique. Et bon, c'est le travail de chacun en tant qu'artiste aussi d'apporter une singularité au monde et au regard qu'on porte sur lui.
Et alors, dans ta manière de travailler, tu commences par de la photographie avant de passer à la peinture. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta technique ?
Oh bah oui, c'est assez simple. Moi, je suis très mauvais dessinateur. et j'ai appris justement aux Beaux-Arts, on en parlait tout à l'heure, que j'avais pas besoin de savoir dessiner pour être pertinent plastiquement parlant. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, je vais partir de la photographie avec des perspectives que j'accentue voilà, en me penchant un petit peu, en regardant déjà un peu différemment à ce moment-là. Je recompose sur ordinateur par la suite et je projette, ce qui va me permettre après de dessiner et de revoir tout ça, donc de dessiner, de peindre ou sur d'autres médiums également.
On parlait de jeu tout à l'heure, c'est que finalement... Tu as construit cette exposition à partir du lieu, donc du garage à Château-Gontier. Tu as déjà des créations existantes, mais tu les places pas d'une manière prédéfinie. Enfin, tu t'adaptes au lieu dans lequel tu t'installes.
Oui, tout à fait. Alors, on parlait de peinture tout à l'heure, de dessin, etc. Moi, mon médium de prédilection, c'est plutôt l'installation. Donc, c'est comment on va travailler avec l'espace et comment les gens vont rentrer dans un lieu un peu singulier. Et vont interagir avec. Donc là, le lieu, il a une histoire forte. Hein, le garage, l'ancien garage de la gare de Château-Gontier, il y a ces structures Eiffel à l'intérieur qui sont assez prenantes également. Et donc, bah, c'est comment mon travail qui a été, moi, fait pour une partie en amont, pour une partie sur place, comment il va résonner avec le lieu et comment bah, tout ça va résonner aussi avec le visiteur, la visiteuse.
On imagine que ça met un certain temps, du coup, installé. Tu en viens tout juste avant le début de cette émission, si je ne me trompe pas.
Ouais, tout à fait. Ça fait plus ou moins une semaine que j'installe, là. Il y a des choses, comme je disais, notamment des dessins et des écrits qui sont directement faits à même le sol. Donc, c'est fastidieux, ça prend du temps, mais c'est aussi... ce temps passé qui rend beau entre guillemets les choses et qui donne force à tout ça.
Tu viens de le dire, il y a aussi de l'écrit en fait. Finalement, il y a un croisement entre plusieurs disciplines, on peut le dire. Tu joues avec l'espace, mais tu joues aussi avec les différentes disciplines pour interpeller le visiteur ou le curieux d'ailleurs, parce qu'on va pas parler de spectateur pour ton exposition.
Alors donc là il y a deux choses. D'abord, effectivement, sur les médiums, j'ai une palette de pratiques assez large. J'adore explorer, je fais plein de choses. Ça va de la photo argentique à la gravure, en passant par la fonderie et autres, la sérigraphie, le cyanotype, on va en reparler. Donc vraiment, moi je vois tout ça comme un tas de moyens qui sont à ma disposition et que je vais pouvoir utiliser et choisir pour raconter ce que j'ai envie de raconter. Et après, pour cette histoire de curieux, effectivement, moi, c'est la manière que j'ai trouvée pour décrire un peu les visiteurs et les visiteuses qui viennent. C'était une manière de les définir de manière un peu plus active que ce qu'on a l'habitude de voir, ou en tout cas de penser, quand on parle du spectateur. Et puisque en fait, je fais des installations qui sont souvent vides de présence humaine. Il n'y a pas de silhouettes qui sont présentes dans mon travail, généralement. Et finalement, c'est le visiteur, la visiteuse qui va venir habiter ces installations et y participer pleinement.
Et alors, ce qui m'intéresse, c'est que tu as parlé justement des cyanotypes. C'est un procédé artistique qu'on va pouvoir découvrir lors de cette exposition. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement ?
Ouais, bien sûr. Alors, si on veut parler de cyanotypes, faut pas penser que mon travail va expliquer ce que c'est, puisque je le détourne, en fait, cette idée de cyanotype. Pour revenir dessus rapidement, c'est un ancien procédé photographique qui date de 1842, donc c'est le tout début de la photographie. Et le cyanotype, c'est une émulsion photosensible qui va venir réagir à la lumière du soleil, à la lumière des UV, et qui va acquérir cette teinte bleutée au fur et à mesure. Et moi, je la détourne dans le sens où je l'utilise pas du tout comme un procédé photo, mais je dessine et je peins à partir de ce procédé photo, et je peins de la photographie. Donc voilà, la boucle est bouclée, et il y a une sorte d'autodérision un peu là, autour de tout ça.
On parlait de visiteurs et de curieux, ou de visiteuses ou de curieuses. On peut être sensible et immergé dans ce que tu nous proposes à tout âge.
Oui, tout à fait. Alors moi, je vais beaucoup jouer sur les émotions, sur comment les sens ils sont activés autour de nous. Et c'est assez drôle de parler d'âge, parce que les œuvres que j'ai produites, elles sont en partie au sol. Donc en fait, un enfant peut très bien s'y retrouver également. Y a des cyanotypes justement qui sont accrochés assez bas pour ça. Et donc après, oui, effectivement, l'émotion, elle est pour chacun. Donc on n'a pas besoin d'être spécifiquement érudit en art contemporain pour pouvoir lire et apprécier ce qui sera proposé au garage.
Le regard que toi tu poses sur tout ce que tu représentes dans cette exposition, ça vient effectivement de ta sensibilité. Et ce que tu attends du spectateur, du visiteur, c'est que lui-même aille puiser, en fait, il va trouver lui-même aussi ce qui l'interpelle dans ton œuvre. Tu traces pas un chemin, tu n'as pas d'attente spécifique là-dessus.
Non, effectivement, c'est assez libre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire vibrer les gens, en quelque sorte. Je le fais en leur transmettant, effectivement, ma sensibilité à moi. Et après, il y a une forme de réappropriation, c'est-à-dire que chacun va pouvoir puiser dans ce que je propose. Voilà, quelque chose qui m'appartient à moi, qui est très propre. Finalement, chacun va la lire de manière différente et va se la réapproprier. On va croiser les souvenirs, quelque part. Et voilà, ça appartiendra à chacun après.
Des fois, des endroits comme ça que l'on croise quotidiennement, on sent, c'est pas qu'on s'en lasse, mais c'est qu'on les regarde plus autant, plus de la même manière, on s'arrête plus sur ces choses-là. C'est aussi une manière, à un moment, de se reposer la question, tiens, est-ce que, de temps en temps, je prends pas un peu plus le temps de regarder tout ce qu'il y a autour ?
Ouais, bien sûr, et puis moi le premier, hein, on a les yeux rivés sur nos portables, on a toujours les pensées qui sont bien occupées à droite à gauche, et on prend plus le temps de respirer. Et voilà, c'est le côté un peu flâneur qu'on va vouloir retrouver ici.
Donc on va prendre le temps de prendre le temps avec toi, et on va d'ailleurs pouvoir te rencontrer lors de cette exposition, puisque je le disais en début d'entretien, l'exposition est visible à partir du 2 novembre et ce jusqu'au 1er décembre. On pourra donc venir au garage les samedis et dimanches de 15h à 19h à Château-Gontier. Le vernissage, c'est le 2 novembre à 18h. Tu seras présent ce jour-là, mais sinon on pourra venir échanger avec toi tous les dimanches.
Ouais, tout à fait. Je serai là, donc, et bien évidemment, pendant le vernissage et également les dimanches pour discuter avec vous et compléter tout ce que je peux proposer plastiquement.
Et alors, en ce moment, on peut en dire peut-être quelques mots. Tu es aussi sur un autre projet en plus de cette exposition-là. Tu travailles actuellement sur un projet de fresque autour du sport pour le gymnase de Dent.
Oui, effectivement. Alors, en quelques mots, c'est un gymnase qui commence à être assez vieillissant et... voilà, il y a cette intention de faire une proposition artistique pour le rajeunir, et pour ça je suis en lien avec un peu les différentes associations du village ainsi que l'école primaire, la mairie, etc. Et donc c'est un projet qui se construit un peu main dans la main avec tous ces acteurs qui seront représentés sur la fresque. Et voilà, donc on ne vous en dit pas plus, mais je vous tiendrai au courant prochainement.
Et donc, ne pas hésiter à se rendre donc, à ton exposition, je le disais, Castrogon à traits tirés, à partir du 2 novembre. Le vernissage est à 18h le 2 novembre. Et sinon, on peut venir donc te découvrir ton travail ou toi-même jusqu'au 1er décembre, les samedis et dimanches, de 15h à 19h. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Hugo.
Merci à toutes et tous et bonne journée.
Et donc, on fait maintenant une petite pause musicale avant de continuer cette émission. Et donc, on écoute Voyou, Les Royaumes Minuscules.
Mmh. Je me déplace tout doucement et ça m'arrange comme une limace. Sans trop forcer, je me balance de gauche à droite au ralenti. Le monde est si joli au ralenti. J'ai tout le temps d'y voir du jour au crépuscule tous ces royaumes minuscules qui se façonnent sous nos yeux. Que tous ces gens qui courent sans caresser le jour ont oublié. Plus le temps passe et plus j'apaise ma cadence. Le ciel m'embrasse et je me noie dans ses nuances. Un oiseau passe. Je crois que le temps que j'arrive à faire un pas de plus, il aura déjà fait son nid de branchages et de mousse. Mars a viré, on passe et j'ai posé 6 fois le pied. Mais j'ai vu tant de choses du jour au crépuscule dans ces royaumes minuscules qui se façonnent sous nos yeux. Que tous ces gens qui courent sans caresser le jour ont oublié. À force de ralentir le pas, des araignées ont tissé tout autour de moi. Mais ça me va, je crois. Je me laisse guider de l'hiver à l'été au gré des choses à regarder. J'irai jusqu'au bout de ma vie sans pas de trop au ralenti. Les saisons sont si belles du jour au crépuscule dans ces royaumes minuscules qui se façonnent sous nos yeux. Que tous ces gens qui courent sans caresser le jour ont oublié. Je ne bouge plus depuis combien de temps, je ne sais pas, je ne sais plus. Je regarde sans voix le paysage et ses méduses. Échoué sur la plage, on se ressemble et ça m'amuse. J'irai finir ma vie parmi les vagues et les effluves de ma propre carcasse. Qu'un courant vienne et me déplace le long des mondes sous-marins. Du jour au crépuscule dans ces royaumes minuscules qui se façonnent sous les eaux. Tant pis pour ceux qui courent sans caresser le jour s'ils sont heureux.
Vous écoutez l'agité du local sur l'autre radio 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Et alors bien sûr, je ne l'ai pas mentionné au début de cette émission, mais le lundi, c'est aussi la revue de presse du Haut-Anjou. Donc c'est le moment fort attendu pour bien commencer la semaine. On regarde de près ce qu'il se passe dans le sud Mayenne et même au-delà du département grâce à notre hebdomadaire le Haut-Anjou. Donc c'est un coup de projecteur sur les titres à la une pour celles et ceux qui ne seraient pas encore allés en kiosque pour se le procurer. Et on commence donc au Lion d'Angers, plutôt musicalement, avec Ekaterina, professeure de violon depuis septembre à l'école de musique du Lion d'Angers. Le journal revient cette semaine sur le parcours de cette talentueuse violoniste qui a notamment été soliste au sein du théâtre Bolchoï à Minsk en Biélorussie, ce pays qui l'a vu naître. C'est bien toute son histoire, des premières notes jouées jusqu'à aujourd'hui, où comme je vous le disais, elle devient professeure de musique et se lance donc dans la transmission de sa passion que le journal nous raconte. Un parcours inspirant pour les plus passionnés, musiciens ou non d'ailleurs. Et après la musique, ce sera plutôt du sport de haut niveau avec Christian Baudouin, castro-gontérien et triathlète, qui se qualifie aux mondiaux en finissant 3e de sa catégorie 60-64 ans en Grèce à Marathon. C'est donc dans un peu plus d'un an qu'il se rendra aux mondiaux à Marbella en Espagne, plus précisément le 9 novembre 2021. Il raconte que cette qualification est pour lui une véritable récompense après 6 ans à tourner autour en recevant uniquement des prix d'honneur. On termine maintenant ce coup d'œil sur le Haut-Anjou à Renazé au cinéma Le Vox avec une grande vente de livres, d'affiches et de photos de films qui a eu lieu le 19 et le 20 octobre dernier. L'objectif de cette vente était de vider les locaux de cette ancienne bibliothèque faisant partie de l'avant-garde de Renazé qui a fermé ses portes à la fin des années 2000. Acheteurs, amateurs et collectionneurs étaient au rendez-vous et ont permis de récolter au total 1500 euros. C'est une opération qui sera donc très probablement renouvelée. Voilà, chaque revue de presse est à retrouver le lundi dans cette émission, mais je vous rappelle bien sûr que la version papier de votre hebdomadaire est disponible chaque vendredi en kiosque ou même en version numérique sur le site internet du Haut-Anjou. Et donc on continue notre émission avec le premier épisode d'une série d'interviews réalisée par Robin Madiot qui est allé à la rencontre de nos sportifs et athlètes mayennais ayant participé au JO 2024 à Paris. Aujourd'hui, Aubin tend son micro à Charles Renard. Écoutez.
À l'occasion de la parade Mayenne 2024, organisée le lundi 21 octobre par le département, de nombreux supporters mayennais et mayennaises se sont donc donné rendez-vous à l'espace Mayenne pour célébrer nos athlètes locaux. L'occasion de leur demander des photos, des dédicaces ou autres, nous, on a décidé de les rencontrer, de leur demander ce qu'ils ont pensé de ces Jeux après 2 mois, leur joie, leur déception, mais aussi leur ressenti quant à la ferveur mayennaise, françaises présentes en nombre sur le bord des routes et dans les gradins, mais aussi leurs ambitions dans l'optique des Jeux de Los Angeles 2028. C'est une série de plusieurs épisodes où nous rencontrons donc ceux qui ont fait vibrer le département, mais aussi les supporters présents en nombre pour soutenir leurs idoles, avec pour certaines des spécificités assez particulières, vous verrez. Mais pour le moment, aujourd'hui, nous laissons notre micro à Charles Renard, guide de Timothée Adolphe et vice-champion olympique sur le 100 mètres, qui nous fait part de ses émotions et de son étonnement dû à l'ambiance qu'ont pu donner les Mayennais et Français dans le stade.
Ouais, bah écoutez, les Jeux, franchement, comme on en a parlé, hein, ils étaient incroyables. Quand j'entends que ce soit Vladimir ou Timothée parler des Jeux qu'ils ont déjà vécu, c'est vrai que ce sont les Jeux où ils ont eu le plus d'ambiance, le plus d'engouement et ça fait vraiment plaisir. On parle souvent du public français qui est très timide, qui ne soutient pas beaucoup, mais là, il a prouvé qu'il était vraiment à fond derrière nous, derrière ses sportifs. Et ça fait vraiment du bien, c'était vraiment une parenthèse enchantée ces Jeux. C'est vrai que tout ce qui était le quotidien ont été mis de côté durant ces deux quinzaines. Hein, donc ce mois pendant ces grandes vacances, ça a été mis de côté pour parler que des Jeux Olympiques ou Paralympiques et ça faisait du bien. Et après, plus personnellement, ça a été de beaux Jeux. C'est vrai que la médaille d'argent, c'est pas ce qu'on nous vision. On souhaitait forcément l'or. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que moi, j'avais vraiment que ça en tête. Je visais vraiment rien d'autre à part cette médaille d'or. Donc, c'est vrai qu'au début, ça a été une déception de remporter cette médaille d'argent. Mais après, a posteriori, à froid même, cette médaille, on est obligé de la savourer. Elle fait vraiment du bien. C'est un rêve, c'est un accomplissement et c'est pas... non plus le terminus, quoi. Le terminus, ce sera vraiment d'aller chercher l'or à Los Angeles en 2028. Et pour ça, on a encore 4 ans avec plusieurs étapes à préparer.
Une médaille paralympique, donc, qui peut créer tout de même l'étonnement de certains puisque notre médaillé d'argent était en effet un athlète valide. Il est, comme expliqué précédemment, guide de Timothée Adolphe, atteint d'une cécité visuelle. Une médaille donc qui savoure, tout autant que son coéquipier, le résultat d'un travail de plusieurs années.
Cette médaille, c'est le fruit de notre travail. Donc, OK, c'est une médaille para, moi, je suis valide. En valide, faut pas se mentir que j'aurais jamais eu cette médaille. J'aurais pu participer au jeu, peut-être. On ne saura pas. Mais avoir une médaille est quelque chose de très très compliqué, voire presque inaccessible, voire même inaccessible plutôt. Donc non, c'est une chance, c'est une opportunité que Timothée m'a proposée. Maintenant, la médaille, elle n'est pas gagnée quand on a commencé. C'était pas écrit sur un papier que nous allions faire un podium. Il a fallu qu'on travaille, qu'on s'arrache. Et voilà, donc cette médaille, elle a le même goût que si c'était une médaille olympique. On a été ensemble, on a traversé des hauts, des bas durant cette année et demie. Donc forcément, on est content et on la savoure tout pareil, quoi.
Charles étant lui aussi sprinteur de haut niveau, chez les Valides donc, cette collaboration n'était pas donnée au premier abord.
Ça a été par hasard. Timothée m'a proposé. Au début, j'étais un petit peu réticent et finalement, je me suis dit pourquoi pas, c'est une nouvelle expérience. C'était aussi un besoin peut-être que j'avais de voir du renouveau dans le sport, puisque je suis un grand passionné de sport quand même. Je me voyais pas arrêter et je me voyais pas forcément mettre ma carrière non plus perso de côté. Mais voilà, j'ai un nouveau bol d'air, on va dire, dans ma carrière. Et puis c'est vrai qu'avec Timothée, ça a très vite matché l'entente, parce que avant d'être une aventure sportive, c'est une aventure humaine. C'est le fait qu'on s'entende super bien qui a surtout fait que l'aventure s'est poursuivie, quoi.
Un athlète reconnaissant également de son public venu en nombre pour l'encourager jusqu'au bout de la ligne droite.
C'est vrai que le département a fait venir un bus l'après-midi pour aller voir Vladimir. Et le soir, vu que moi je courais les demi-finales, on avait nos compétitions le même jour avec Vlad. Le soir, du coup, il y avait 300 personnes, donc toute une tribune, tout un pan de tribune qui était là avec des t-shirts Mayenne. Donc c'est vrai, forcément, je l'ai ressenti et ça fait vraiment plaisir d'avoir un département qui nous soutient. C'est pas tous les départements qui mettent cela en place. Donc non, c'était une très bonne chose. Ça m'a fait énormément plaisir après la course de passer faire un coucou à la Mayenne que je vois pas souvent forcément. Le département, ils ont vraiment fait les choses en grand. C'était super et merci. Franchement, on peut que les remercier et qu'être fier d'être Mayennais aujourd'hui, quoi.
Le sprinteur de 28 ans ne ménage pas ses efforts pour s'améliorer d'année en année. Il a désormais pour ambition en 2028 de participer pour la première fois aux Jeux Olympiques, mais aussi de réitérer, voire créer l'exploit en devenant champion paralympique aux côtés de Timothée.
L'objectif sera d'être aligné sur les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques aux côtés de Timothée. Maintenant, 4 ans, c'est long, on ne sait pas de quoi ce sera fait. Dans le sport, il peut tout se passer à tout moment. Donc avant ça, on va d'abord se concentrer à revenir, à retravailler un petit peu plus. Je ne sais pas aussi comment ça va se passer, puisque pour reprendre ma carrière perso, il faudrait que nous trouvions un nouveau guide pour l'entraînement. Donc voilà, c'est en train de se faire, c'est en train de se mettre en place. On verra aussi si ce projet, la personne va durer sur 4 ans. Et puis voilà, on verra de quoi sera fait demain. Mais oui, en tout cas, j'ai bien envie d'être aligné sur les Jeux Para et les Jeux Olympiques dans 4 ans.
Un grand merci à Charles Renard pour avoir répondu à nos questions. On se retrouve demain avec Soukamba Silla, sprinteuse spécialisée dans le 400 mètres, qui nous fera part également de son émotion et de l'ambiance qu'elle a pu ressentir lors de sa course.
L'agité du local continue dans quelques instants. Ça sera le journal des sports avec Mathieu. Mais avant ça, je vous propose une pause musicale. Et j'avais envie d'écouter avec vous Dominique Fils-Aimé, Feeling Like a Plant.
Feeling like a plant.
Alors aujourd'hui, nous faisons le tour de l'actualité sportive en Mayenne avec notre chroniqueur Mathieu pour son traditionnel journal des sports.
Bonjour Margot, bonjour à tous.
Mathieu, on commence ce journal avec du futsal et la qualification de l'Étoile Lavalloise.
Effectivement, elle était attendue et la voilà enfin. Je parle bien sûr de la Ligue des champions de futsal. Une compétition qui s'est d'ailleurs tenue à l'espace Mayenne du 22 au 27 octobre dernier avec les matchs du groupe 5. Et pour sa deuxième participation cette fois à domicile, l'Étoile Lavalloise s'est qualifiée avec brio pour le tour suivant, en signant d'ailleurs un carton plein. Avec 3 victoires en autant de matchs face à Minerva, Udevala, Stolinska, Minsk et surtout 9 points pris. Au-delà des victoires, ce qui a marqué aussi, c'est que les Lavalans brillent offensivement avec 16 buts marqués. Ce qui d'ailleurs fait de Laval la deuxième meilleure attaque de ce tour principal derrière le club espagnol, le Palma Futsal. Derrière ce festival offensif offert au public, un joueur aussi s'est particulièrement distingué. Je vous le donne en mille, il s'agit du Marocain Sofiane El Mesrar, auteur de 2 doublés et d'un triplé. Avec 7 buts marqués, il termine meilleur buteur de ce tour principal. Grâce à cette qualification pour le Tour Elite, l'Étoile continue sa route européenne. Et après cette parenthèse enchantée, retour au quotidien pour Laval avec le championnat pour la 3e journée de championnat où ils affronteront le Sporting Paris le 2 novembre prochain. Pour ce qui est du Tour Elite aussi, le club connaîtra le nom de ses adversaires lors du tirage au sort qui aura lieu jeudi prochain.
Du football maintenant avec le 6e tour de la Coupe de France et le dernier club mayennais en lice.
Et oui, si la Ligue des champions futsal a beaucoup pris de place, un autre rendez-vous était attendu. Je parle du 6e tour de la Coupe de France qui a eu avec le dernier club mayennais en lice. Il s'agit non plus ni moins de l'US Changé opposé ni plus ni moins au Mans Club de National au stade Auguste Dalibar. Le Mans d'ailleurs aussi tombeur d'un autre club mayennais, celui d'Ambrières signé FC. Samedi dernier, dans un match au goût de revanche pour certains, l'US Changé s'est monté à la hauteur de l'événement, avec des joueurs vaillants, sans complexe et courageux face à ses joueurs professionnels. Et même héroïque aussi, puisque l'US Changé a même mené à 2 reprises dans la partie avant de craquer en fin de match et de s'incliner finalement 4-2. À l'heure où je vous parle, il n'y a plus aucun club mayennais en lice dans la compétition.
Du football encore avec le stade Lavallois qui s'incline sur la pelouse d'Annecy.
Et oui, cette fois, pas de victoire pour les hommes d'Olivier Frappoli qui se sont inclinés 2-0 vendredi dernier sur la pelouse d'Annecy du côté de la Savoie. Une défaite sans surprise dans le contenu, malgré quelques occasions dont une qui s'est arrêtée sur la barre transversale. Un soir sans a d'ailleurs expliqué l'entraîneur du stade Lavallois, Olivier Frappoli, lors de la conférence d'après-match. Et ça dit quand même quelque chose. Les Lavallois subissent leur 2e défaite d'affilée à l'extérieur après celle subie face au Paris FC et pointent aussi à la 10e place du classement de Ligue 2. Cette défaite à Annecy fait suite aussi au match exceptionnel remporté dans la douleur, ou plutôt dans la peur, face à Dunkerque il y a environ 2 semaines. Durant ce match, les Lavallois menaient 3-0 en faisant preuve de réalisme avant finalement de se faire rejoindre en fin de partie. Mais heureusement finalement gagné 3-2 grâce à l'arrêt sur pénalty du gardien lavallois Mamadou Samassa face à Gaëtan Courtet. De quoi, je vous l'accorde, donner des crises cardiaques aux supporters venus à Le Basser.
On passe avec le volleyball avec les joueurs de l'ASPTT vainqueurs de Saint-Renan.
Et oui, décidément, plus rien n'arrête l'ASPTT de Laval en ce début de championnat. Après Sartrouville, Rézé, Plaisir, c'est au tour de Saint-Renan, l'équipe située à Rennes, de s'incliner à Laval. Saint-Renan d'ailleurs, qui pour information n'a toujours pas remporté la moindre rencontre dans ce championnat de National 2. Face au bon dernier de la poule B, la logique a été respectée et Laval s'est imposé facilement en 3-7, 18-25, 19-25 et 19-25 pour le 3e set. Laval actuellement est 2e de la poule B de N2 et compte 10 points au compteur. D'ailleurs aussi, ce match a permis aussi de faire tourner au niveau des joueurs comme l'a expliqué l'entraîneur de la SPTT.
On termine ce journal par les prochains rendez-vous sportifs à suivre en Mayenne.
Et oui, avant de vous quitter et de vous retrouver comme d'habitude dans 2 semaines, voici les prochains rendez-vous sportifs en Mayenne à noter dans vos agendas. Le premier aura lieu demain en football avec les réceptions de Clermont à Le Basser en Ligue 2. Puis vendredi prochain à 20h, le stade Lavallois se déplacera dans l'Aube pour défier l'Estac 3, bon dernier du championnat. Pour ce qui est du ballon ovale, le RC Lavallois défiera le dimanche 3 novembre en Senis, avec une victoire obligatoire pour eux, bon dernier du championnat, eux qui d'ailleurs ne comptent qu'une seule victoire au compteur. C'était face à Saumur 45. Et enfin, du handball avec l'Union Sud de Mayenne qui défiera le Hennebon Locrist le 16 novembre prochain. Sur ce, je vous dis à très bientôt.
Merci beaucoup Mathieu, à bientôt. L'AJT du local est terminée pour aujourd'hui. Merci à Hugo d'avoir été avec nous. Merci à Aubin pour cette première interview avec nos athlètes olympiques mayennais. Et merci à Mathieu pour le journal des sports. Votre émission quotidienne s'arrête maintenant, mais je regarde avec vous quand même ce qui vous attend ce soir à 19h. Ça sera l'émission Solénoïde qui propose chaque semaine un voyage sonore à base de musique planante, cinématographique et ethnique. Voilà, on commence cette semaine ensemble avec de la musique pas banale, on peut le dire. Et ensuite, on continue à 20h avec la discothèque d'un de nos bénévoles. Comme chaque lundi, on fouille dans les tiroirs, on retire la poussière des vieux disques ou vinyles d'un membre de l'autre radio qui nous partage ses sons, qui lui font du bien. Voilà, que de bonnes choses nous attendent sur les ondes de l'autre radio. Nous, on se retrouve pour une nouvelle émission de la JT du local demain. Nous serons avec une artisane lavalloise, Chloé Durand, de la boutique Candéol, qui crée des bougies que vous avez très certainement aperçues dans différents lieux de vente à Laval. D'ici là, mettez un peu de musique dans vos silences. Offrez-vous des détours sur vos chemins quotidiens. Faites-le, c'est important. Sans oublier, s'il vous plaît, de faire le bien.
Bon, bah c'est fini.
Tout de même, ça passe vite.